France Musique. Arnaud Merlin, les lundis de la contemporaine, France Musique.
Il est 21h07 sur France Musique et c'est l'heure de la partie magazine de cette émission. Le magazine de la contemporaine. Si vous êtes dans les Alpes-Maritimes du côté de Saint-Martin-Vésubie, dans quelques jours, entre le 1er et le 10 juillet, vous aurez peut-être la chance de croiser quelques étudiants venus de loin, des États-Unis, du Brésil, de Taïwan, de Lettonie, de Turquie, d'Espagne, de Grèce, d'Italie et même de France. Et si vous vous intéressez à la musique d'aujourd'hui, vous pourrez découvrir leurs partitions toutes fraîches au cours de deux concerts qui seront donnés les 8 et 9 juillet par l'ensemble multilatéral à la fin de cette première édition de cette université d'altitude. C'est une initiative très bienvenue de deux compositeurs français qui ont le vent en poupe, Yann Robin et Raphaël Sendo. Initiative qui ne restera pas là puisque le lauréat de l'Académie bénéficiera d'une commande de l'ensemble multilatéral et puis aussi d'une édition chez Jobert. Et bien sûr, ce n'est qu'une première édition. Le programme est appelé à se développer dans les années à venir et pour nous mettre dans l'ambiance, voici une petite pièce signée par l'un des étudiants de cette année, Diego Jiménez Tamame.
Yeah.
Only Then I Felt the Ice, une pièce de Diego Jiménez Tamam et par l'ensemble multilatéral. C'est l'un des compositeurs que l'on retrouvera du 1er au 10 juillet dans cette académie d'altitude à Saint-Martin-Vésubie. C'est dans les Alpes-Maritimes, académie organisée pour la première fois. C'est la première édition par Raphaël Sendo et Yann Robin. C'est la dernière de la saison et cette semaine, pour son dernier reportage, Pierre Rigaudière a rencontré Adrien Mamoumani, c'est le responsable de l'équipe acoustique instrumentale à l'IRCAM, ainsi que le harpiste Nicolas Tullier qui était le soliste du concerto de Diane Marèche que nous avons écouté il y a quelques semaines.
L'origine, ce qui m'intéresse, c'est les instruments acoustiques dans toute leur subtilité, la lutherie. Et finalement, j'ai abordé l'électronique et l'informatique par ce biais-là, en fait.
Adrien Mamoumani.
Donc c'est vraiment pour faire dialoguer l'instrument acoustique et l'ordinateur, mais non pas dans un seul sens, comme on le fait d'habitude, où on utilise certaines données, certains signaux qui proviennent de l'instrument pour avoir une chaîne dans un sens jusqu'à un haut-parleur. Mais là, cette fois-ci, l'ordinateur peut agir lui-même sur l'acoustique de l'instrument. Donc en tant qu'acousticien, c'est quelque chose d'assez grisant de voir qu'on est capable d'utiliser l'ordinateur pour changer un objet acoustique. Côté auditeur, il y a un trouble qui se fait. En parlant un peu avec des amis à moi qui ont assisté à certains concerts, il y a un trouble qui se fait parce que on se dit, finalement, si on n'avait pas dit qu'il y avait de l'informatique, qu'il n'y avait pas tout l'IRCAM qui avait débarqué pour transformer les instruments acoustiques, peut-être que ça aurait été possible sans. Peut-être que le musicien, il aurait été capable de faire ça lui-même. Ça reste quelque chose qu'on comprend comme quelque chose d'acoustique, mais en même temps, qui provient de cette double interprétation du musicien et de l'ordinateur. Plus que l'auditeur, c'est le musicien qui m'intéresse dans mes travaux de recherche et développement, parce que je considère que finalement, ce dont on a parlé précédemment, l'auditeur, lui, ce qu'il va recevoir, il s'en moque, il a la technologie ou pas, lui, ce qu'il veut, c'est prendre du plaisir, découvrir de la musique, s'intéresser à ce qu'il va entendre. Et pour moi, le résultat de ce que lui va écouter va être vraiment le produit de l'instrument et de son interprète. Bien sûr, le compositeur a une place essentielle aussi là-dedans. Et donc, c'est vraiment dans cette rencontre entre l'instrument et l'interprète que va se jouer l'expression musicale, quoi. Enfin, c'est une banalité de dire ça. Mais finalement, quand on est sur des technologies, c'est peut-être pas si mal de le rappeler. Et donc, Ce que nous disent les musiciens, c'est qu'ils ont une expérience complètement différente du rapport à l'électronique qu'ils ont d'habitude. Finalement, cette vibration supplémentaire qui va être ajoutée, due à l'électronique, va être ressentie par le musicien comme source d'une meilleure compréhension, d'un rapport plus physique, plus charnel avec l'électronique. D'autre part, dans la musique mixte, acoustique et électronique, quand on a une deuxième source qui diffuse des sons, ça met une certaine distance pour le musicien qui n'est pas capable d'extrapoler ce que lui entend sur l'expérience de l'auditeur. Alors que quand l'électronique vient directement de l'instrument, lui, il intègre ça vraiment dans son interprétation. Par exemple, le niveau auquel lui va jouer quand sur sa partition il va avoir écrit mezzo forte, qu'est-ce que ça veut dire en rapport à l'électronique? Et ben là, lui, ce mélange comme il se fait devant lui et qu'il entend comme sa source normale qui est son instrument, ben là, il peut avoir ce rapport-là à la diffusion et à l'équilibre entre acoustique et électronique lui-même.
Ok. Donc on va recommencer. Donc encore une fois avec un son qui est le son acoustique de l'instrument. Et maintenant, on va dire bon, bah, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus puissant. Maintenant, je vais moduler cette puissance de l'instrument, on pourrait dire. Vous voyez, on a l'impression d'entendre un ampli, mais en fait, c'est la caisse de résonance qui fait ça. Et donc, on peut être comme ça, dans quelque chose, ben, on ne sait pas, c'est un son acoustique, c'est un son amplifié, je ne saurais pas vous dire, en fait. Alors, on peut maintenant, au contraire, essayer d'avoir un son plus sourd, une sorte d'effet de sourdine. Je vais revenir au son plutôt amplifié. Voilà, après on peut avoir envie d'avoir un son avec beaucoup de médium, par exemple. Hop, après j'enlève plutôt les médiums et on remet plutôt des aigus. Voilà. Et après je reviens au son normal.
Quand vous avez l'impression que vous jouez une note et qu'en fait c'est une autre note qui sort de votre instrument, ou bien c'est la superposition entre cette note, ça devient un accord ou des choses comme ça, rien que ça, ça trouble complètement, c'est-à-dire que il y a des questions cognitives qui arrivent derrière ça sur le rapport entre l'action et la perception. Cette boucle action-perception, c'est quelque chose que fait le musicien, et d'ailleurs je crois qu'on a même trouvé que dans le cerveau, les musiciens ont des neurones spécifiques entre ce côté moteur et ce côté auditif. Et donc dans cette boucle action-perception, quand vous transformez l'objet sur lequel vous avez projeté des choses, sur lequel vous avez anticipé des résultats, si vous faites ça par surprise, vous allez complètement perdre toute cette expertise, cette compétence dans l'interprétation du musicien dont j'ai parlé précédemment. Donc il faut vraiment un apprentissage nécessaire quand on veut exploiter au maximum les possibilités de ces instruments-là. Ça a été un travail en amont qu'on a effectué avec le réalisateur en informatique musicale Thomas Gupfer, qui travaille avec Yann Maraëch, où, en effet, on a dû reprendre à la base nos travaux à ce sujet. Il y a plein de différences entre un instrument de type guitare-violon avec le couplage entre les cordes et les caisses de résonance se font de manière assez locale. Avec la harpe, c'est très différent puisqu'on a toute cette série de cordes qui excitent la table d'harmonie à des endroits complètement différents, et donc ça va avoir aussi pour résultat que chaque note va profiter de la réponse de la caisse d'une manière complètement différente, et donc ça a posé pas mal de problèmes. On a été au plus simple avec Thomas pour essayer de répondre au mieux aux idées de Yann Maraëch quant à des illusions qui souhaite faire entre ce rapport entre la qualité du son acoustique et la qualité de la diffusion de la harpe elle-même par la harpe. Je vous cache pas que je me suis un peu cassé les dents au début en voulant plaquer directement ce qu'on avait fait sur les anciens instruments sur la harpe, et que ça demande un gros travail, c'est un instrument quand même qui est très compliqué. Et peut-être que cette pièce, dans sa vie, aura des dispositifs qui évolueront aussi à l'intérieur de la harpe.
En fait, c'est pas une harpe. Il l'appelle augmentée, c'est-à-dire qu'il y a des transducteurs à l'intérieur qui me renvoient de l'électronique ou des sons que j'envoie qui sont transformés.
Nicolas Tullier.
Mais le niveau sonore que moi je produis avec la harpe que j'utilise normalement dans l'orchestre, c'est ma harpe habituelle. Mon niveau sonore est apparemment, selon leur dire, plus fort que ce qu'ils envoient dans la caisse de résonance, en fait. Et donc, du coup, moi j'ai une impression de quelque chose qui me couvre, alors qu'en fait, en réalité, apparemment, ça ne me couvre pas. C'est très agréable parce que plutôt que de travailler des milliards de traits, je fais une note qui déclenche des cascades. Donc je fais une petite note qui est sur la troisième doule, par exemple, qui va déclencher quelque chose. Et eux ouvrent une sorte de micro à l'intérieur de la caisse de résonance qui prendra la note que je fais et qui la retravaillera et déclenchera quelque chose. Mais il faut que ce soit hyper précis pour que ça se passe. Si je suis décalé d'une double croche, à ce moment-là, la cascade ne se passe pas. Mon rêve, c'était de faire un crescendo, par exemple, à l'harpe. On a un instrument qui est à corde pincée, donc on ne peut pas faire de crescendo. Je sais pas si vous avez perçu, il y a un passage dans l'orchestre où je fais ti. Pam. Et l'électronique derrière me permet de faire tim, pam, tim, pam. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, jouissif. C'est le seul moment de ma vie où, en tant qu'artiste, j'ai fait un crescendo.
On a finalement choisi une dénomination où on a séparé l'instrument acoustiquement augmenté de smart instrument en disant que bah, s'il n'a pas cet ordinateur spécifique que nous avons développé pour faire certains traitements particuliers qu'on appelle le koala, on va rester dans une dénomination d'instrument augmenté pour Yann Maresch en tout cas pour le moment. Alors ce petit koala est un ordinateur, une carte son, un préampli, un ampli, tout ça dans le même objet. Alors, j'avais l'idée d'appeler ça koala parce que il vient vraiment s'agripper sur l'instrument avec les deux côtés. Le côté capteur, d'une part, et de l'autre côté, ces petits vibreurs, ces actionneurs électrodynamiques. Et on a l'entrée du koala qui va être ce capteur et la sortie qui est l'actionneur. À l'intérieur du koala, on a développé un micro-ordinateur, voire même on appelle ça des nano-ordinateurs aujourd'hui, des tout petits ordinateurs, qui permettent de faire vibrer l'objet physique aussi vite que l'analogique de la vibration physique. En ce sens, les traitements qu'on effectue à l'intérieur du koala vont environ 1000 fois plus vite que ce qu'on fait d'habitude avec un ordinateur traditionnel. Et on a dû faire ça parce que quand on mettait un ordinateur normal entre ce capteur et cet actionneur, on avait plein d'instabilités, de ce qu'on appelle généralement des Larsen, plein de choses qu'on maîtrisait pas, parce que entre le capteur et l'actionneur, le temps qu'on a passé à faire nos traitements font que la vibration de l'instrument est dans un état complètement différent de celui qu'on avait capté. Et donc tout ce retard qu'il y a dans cette boucle posait plein de problèmes, on n'arrivait pas à accéder aux propriétés vibratoires de l'instrument. Grâce à quelque chose qui va 1000 fois plus vite que ça, vous êtes au plus près de ce que la vibration et la relation que vous allez avoir avec l'instrument vous permet de faire.
Merci Pierre Rigaudière pour ce reportage qui était mixé par Jean-Benoît Tiétu et réalisé par Marie Groux. Et puis merci à Pierre pour tous ces reportages et toutes ces années de collaboration aussi professionnelle qu'amicale depuis 8 saisons tout de même. Et je suis sûr qu'on se retrouvera très bientôt.
France Musique.
Bonsoir Philippe Leroux.
Bonsoir.
Vous êtes à l'affiche du festival Manifeste organisé par l'IRCAM pendant tout ce mois de juin et même jusqu'au début du mois de juillet. Deux rendez-vous à signaler en ce qui vous concerne, le 29 juin et le 2 juillet. Alors il y aura des créations, enfin il y aura au moins une création hein, le 2 juillet. Et puis il y a des reprises de pièces, une pièce pour percussion le 29 juin. C'est dans la nuit de la percussion au 104, non pas ici, au studio 104, mais au 104 Aubervilliers dans le 19e arrondissement de Paris. Et puis on reprendra aussi une pièce emblématique de votre production, ça s'appelle Forex, et ce sera aussi le 2 juillet. Et la création, ça va s'appeler comment ?
Ça s'appelle Postlude à l'épée.
Alors, ça faisait toujours des titres extrêmement intrigants. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se cache sous alors, celui-là, avant que ce soit dévoilé par la musique ?
Alors, déjà, il faut savoir que c'est la troisième pièce d'un triptyque, mais les deux premières pièces n'existent pas, donc j'ai commencé par la fin. Ce qui est rare chez moi, parce qu'en général, je commence toujours par le début. J'aime vraiment entendre comment une œuvre se déroule dans le temps, etc. Et bon, l'idée, c'est j'ai plusieurs pièces comme ça qui travaillent des notions particulières de l'épaisseur, justement, de la vitesse, de l'itération, de la disposition, de l'imitation récemment. Et donc là, l'idée, c'est de traiter le thème de l'épaisseur. Alors aussi bien, je dirais, sur le plan horizontal, dans le temps. Donc en fait, si je devais vous décrire l'œuvre, je vous dirais qu'il y a une espèce de son extrêmement dense qui, petit à petit, va se dilater, s'ouvrir, et puis devenir une série d'accords très brefs qui s'écartent de plus en plus, jusqu'à, disons, à la fin de la pièce, il y a au moins 1:30 entre chaque apparition de l'accord. Et entre à l'intérieur des interstices qui sont laissés par cet écartement de l'accord, naît une autre musique, en fait. Une musique qui n'a rien à voir.
J'imagine qu'on voit déjà, on entend presque la musique en regardant la partition, d'après ce que vous décrivez.
Oui, tout à fait. Oui, absolument.
Il y a quelque chose de très important chez vous dans ce rapport entre la graphie, le graphisme et le sonore, ce qui est relativement rare chez les compositeurs.
Ben, peut-être que j'ai une imagination, je dirais, assez visuelle, en fait. Alors, je suis assez sensible au graphisme. J'utilise beaucoup le graphisme pour générer, en fait, des profils mélodiques ou des profils de déplacement dans l'espace, etc. Même temps, je me méfie du graphisme. Ouais. C'est-à-dire que...
Ça peut être une facilité.
Oui, ça peut être une facilité. Ouais. Je le passe toujours rapide. Vraiment au crible de l'oreille. Ouais. On peut avoir une très très belle partition, magnifique, pleine de signes extraordinaires. C'est pas pour ça que ce sera une bonne musique.
Est-ce que ça viendrait de votre fréquentation de l'électroacoustique, cet amour du signe?
Oui, ça peut être lié dans le sens où...
Paradoxalement, puisque en fait, il n'y a pas de partition.
Oui, tout à fait. Donc, on est obligé d'imaginer beaucoup plus. Et puis, c'est vrai que en électroacoustique, on est très attaché à des notions comme la notion de texture, mais texture au sens presque de textile, c'est-à-dire vraiment à la façon dont les mailles sont agencées les unes les autres, la façon dont on peut toucher presque une texture musicale, une texture sonore. Elle va être plus ou moins lisse, plus ou moins rugueuse, plus ou moins avoir plus une directionnalité ou pas. Donc il y avait vraiment des aspects, des couleurs évidemment, un aspect visuel, mais plutôt géométrique. Je suis pas un kinesthésiste.
Dans votre formation initiale, vous étiez à la fois étudiant chez Pierre Schaeffer et Rebel pour ce qui concerne la musique électroacoustique, et puis aussi dans une classe de composition. Il y avait Yves Malek qui faisait le lien entre les deux. Est-ce que vous avez choisi votre camp un jour ou jamais?
Ah, c'était très difficile pour moi à cette époque parce que les musiciens de l'instrumental me prenaient pour un compositeur d'électroacoustique et c'était réciproque, voilà. Donc. J'avais une vie un peu solitaire, on va dire. Mais en même temps, c'était un enrichissement incroyable. Et tout ça est dû au fait que mon frère est ingénieur du son dans le cinéma. Donc, quand j'avais 11 ans, 12 ans, il y avait à la maison, il y avait un vieux Nagra. Enfin, pas un vieux, d'ailleurs, c'était un Nagra 4, qui était déjà pas mal pour l'époque. Et puis, donc, il m'avait appris à couper la bande, à inverser les sons. Donc, c'était quelque chose de très enregistré, bien sûr, naturel, en même temps que j'apprenais le solfège, l'harmonie, et tout ça. Donc, ça, c'est, les deux se sont faits toujours ensemble. Et oui, bah, c'est une. Enfin, je le considère comme une très grande richesse, parce qu'au départ, ce sont des attitudes assez différentes, finalement.
Et on va tout de suite commencer à l'envers, puisqu'on va écouter un extrait de Total Solo. Alors là, c'est pour 28 musiciens, c'est pour l'ensemble intercontemporain. Il n'y a pas du tout d'électronique.
Il n'y a pas d'électronique, non.
Un extrait de Total Solo pour 28 musiciens de Philippe Leroux, ici, l'ensemble intercontemporain sous la direction de Bruno Mantovani, une œuvre donc totalement instrumentale, sans électronique. Ça fait partie aussi de votre catalogue, bien que vous ayez beaucoup développé les œuvres, on pourrait dire, mixtes, et puis beaucoup les œuvres vocales aussi. Est-ce que la vocalité vous permet de dresser une sorte de continuité avec... dans l'histoire de la musique, hein, on peut le dire, vous vous intéressez par exemple beaucoup au plein chant, au chant grégorien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours passionné ou vous êtes venu petit à petit à cette période de
oui,
l'histoire?
Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et en fait, c'est une musique qui est d'une telle richesse qu'elle elle peut prendre beaucoup d'aspects et ça me passionne toujours finalement. Parce que, d'abord, bon, il y a bien sûr la question de la modalité, il y a la question de l'écriture, la pneumatique.
On est dans la figure et pas dans la note.
Et voilà, et surtout ça, cet aspect un peu holistique, là, d'être en fait dans des entités sonores et non pas dans des paramètres agencés les uns avec les autres. Et ça, alors, pour moi, c'est très important. J'ai écrit une pièce entière sous forme de pneum, qui s'appelle « Je brûle », dit-elle un jour à un camarade.
Il y a déjà un certain temps. Est-ce que vous avez eu envie, alors peut-être pas d'inventer une nouvelle notation, mais dans vos partitions, est-ce que vous utilisez quelque chose qui pourrait ressembler à des pneums, par exemple?
Alors justement, je l'ai fait dans cette œuvre-là. J'ai travaillé pas mal la notation entre les deuxièmes parties des années 80. Et puis, c'était très, très riche parce que ça m'a permis vraiment de faire passer des idées telles qu'elles devaient être, c'est-à-dire, comment dire, essayer de les extraire de leur carcan un petit peu solfégique, etc. Parce que finalement, avec la, dans la nouvelle musique, et notamment avec les moyens électroacoustiques, on travaille sur des phénomènes sonores qui sont tellement, par exemple, rapides, ou au contraire tellement lents, qu'il n'y a aucune notation solfégique qui peut en rendre compte. Donc là, on est obligé d'inventer. Mais en même temps, petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait finalement des moyens peut-être plus simples et que les musiciens maîtrisaient mieux pour, au fur et à mesure, disons, que j'ai acquis mon métier, pour faire passer finalement ces mêmes idées. Donc je suis revenu à une notation...
Une notation plus classique.
Plus classique, ouais. Plus pragmatique, parce qu'il faut quand même dire que les conditions de répétition sont en général assez courtes.
Mais vous n'avez pas 15 répétitions non, pour chaque fini, création.
En ce moment, c'est entre 1 et 3. Donc, enfin bon, ça dépend. Hein. Si je travaille avec le Quatuor Bella, c'est sûr qu'il y a beaucoup de répétitions.
Vous pouvez répéter
ou avec les solistes 21.
Avec un orchestre symphonique, c'est plus compliqué.
C'est nettement plus compliqué.
Il y a moins de services. Alors, la question de la notation, c'est très important chez vous. La question de la calligraphie, on en a parlé. C'est aussi une solution peut-être d'amener une certaine continuité, un continuum. Alors, un continuum dans la façon de noter, mais aussi entre les différents paramètres musicaux. C'est quelque chose qu'on a vu chez Stockhausen déjà, mais que vous avez développé entre autres.
Ben, oui, j'ai l'impression que cette question du continuum sonore, c'est vraiment un des enjeux majeurs de la fin du XXe siècle. Donc on a vu chez Vishnegradsky ou Alois Abba le continuum dans les hauteurs, l'utilisation de micro-intervalles, qui fait que même en faisant une gamme avec des 16e de ton, en fait, on a l'impression que c'est un glissando. Le continuum spatial, tout le travail sur les trajectoires spatiales, le continuum rythmique, aussi chez Vishnegradsky, le continuum entre Stockhausen en contact entre la hauteur et le rythme, puisque une hauteur, si on la ralentit, elle devient un rythme, etc. Et le continuum de l'activité aussi. Moi j'ai travaillé beaucoup sur les processus de transformation continue, comment en fait un élément peut se transformer en un autre. Et comment on peut associer l'auditeur en fait à cette transformation-là. Il y a aussi cette idée-là dans le continuum, c'est-à-dire à un moment où l'auditeur pouvait être un peu perdu, ayant perdu ses repères vis-à-vis de la tonalité et tout ça, lui donner une autre façon de suivre ce qui se passe, d'être associé à la musique qui est en train de se dérouler. Quoi.
Ça, je comprends bien quand on a les instruments et l'électronique. Alors quand on associe la voix, on va associer aussi le sens. Comment est-ce qu'on fait pour garder le continuum du sens parmi tous ces continuums?
Alors là, moi, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes de travailler. Moi, je travaille en tresse. C'est-à-dire, je travaille à la fois, je dirais, les indices. Si on se réfère aux catégories de Barthes, les indices, les signifiés, les signes, donc plutôt, et puis la signifiance. Donc, les indices, c'est le sens du son est-ce que il y a une voiture qui arrive sur moi et qui va m'écraser, ça c'est l'indice. Et puis le signe, c'est est-ce que il y a un message qui est délivré et quel est-il, et il faut que je le traduise. Et puis la signifiance, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de l'inconscience, une espèce de signification générale, etc. Donc moi j'aime travailler sur tout. Donc il y a aussi cet aspect même très primaire de l'indice. Le son, c'est d'abord ça. C'est d'abord, est-ce que on est en danger ou pas? Je trouve que c'est très important de garder ça à l'esprit.
Thank you.
De la durée de l'air, à droite et dans la chute, un aigle inaugure la montagne. Toucherai-je en ta bouche l'été muet?
Ultime resserrement du jour, de page en murmure, le dispute allonge. Là-bas s'arrête le jour, tout à coup, l'obscurité confond un troublé le corps bouleversé.
Cependant, le travail continue vers l'inachevé.
Le cinquième mouvement de Voirex pour soprano, six instruments et électroniques, ici Donatienne Michel Dansac, avec l'itinéraire dirigé par Pierre-André Valade. On retrouvera d'ailleurs Donatienne Michel Dansac et Pierre-André Valade, mais avec un autre ensemble Meitar, le 2 juillet, dans le cadre de Manifeste, pour une nouvelle représentation de cette œuvre phare qui date déjà d'il y a quelques années. C'était en 2002, c'est ça la composition?
Oui, 2002.
Philippe Leroux. Et l'ensemble Meitar, donc c'est un ensemble qui nous vient d'Israël. Et qu'on connaît peu en France.
C'est un ensemble de Tel Aviv constitué d'un noyau de 5-6 musiciens et puis qui s'élargit à volonté jusqu'à une vingtaine.
Et vous êtes en résidence là-bas, vous avez plusieurs œuvres à leur confier.
Oui, ça fait 4 ans que je travaille avec eux et vraiment on a fait beaucoup de choses, beaucoup de projets passionnants, aussi des académies de composition internationales. On a un disque qui est en train d'être quasiment terminé, qui sortira d'ici un an environ. C'est très très bon musicien.
Alors vous êtes entre Israël, l'université McGill à Montréal, en ce moment ici pour le festival Manifeste, et vous participez aussi à l'enseignement de l'académie en ce moment à Manifeste. Hein.
Voilà, oui, j'encadre tout ce qui est des compositeurs stagiaires avec l'ensemble intercontemporain et aussi avec le groupe de percussion de Steven Schick.
qui donna donc De la vitesse, cette pièce qui avait été créée il y a une quinzaine d'années par les percussions de Strasbourg. Alors, quand on écrit pour six percussions, alors c'est le format des percussions de Strasbourg, je ne vais pas lire la nomenclature pour les six percussionnistes parce qu'elle est absolument énorme. Vous aviez...
Je l'ai réduite.
Ah, vous l'avez réduite. Oui. Vous avez imaginé un instrumentarium absolument délirant avec des choses très très variées. Mais,
bah oui, très la belle. Première fois qu'on écrit pour les percussions de Strasbourg, d'abord, ils nous accueillent à Strasbourg au restaurant, mais après le restaurant, on va à l'instrumentarium. Et alors là, c'est extraordinaire.
C'est la caverne d'Ali Baba.
C'est la caverne d'Ali Baba. Donc évidemment, il est extrêmement dur de se retenir et de ne pas utiliser.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une tentation de jouer avec les timbres, de faire un peu joli finalement?
Oui, si on gère mal la situation. Non, j'ai essayé de faire attention à ça, mais c'est vrai que je viens de réduire, j'ai fait une version réduite au niveau de l'instrumentarium. Et je pense que la pièce gagne en force aussi, parce qu'effectivement, il y a des choses qui pourraient passer pour des effets, et voilà, on va plus à l'essentiel.
Alors la percussion, c'est ou de la pulsation, ou de la résonance, enfin ça peut être les deux, on peut passer de l'un à l'autre. Hein. Il y a des partitions intéressantes dans la génération qui vous a un petit peu précédé, je pense par exemple avec Dufour, hein, qui a écrit pour percussion. Oui. Comment vous êtes situé par rapport à cette dichotomie?
Ben disons que quand je suis arrivé à écrire pour le groupe de percussion, puis j'avais quand même écrit pas mal pour percussion, solo ou ensemble, orchestre, mais j'avais une idée très très précise de ce que je voulais faire. Je voulais travailler vraiment comme des aplats de couleurs. Encore une fois, on revient au visuel un peu. Et donc, je savais que j'allais travailler avec des groupes de six woodblocks, ou bien de six caisses, ou bien de six résonateurs, des bols tibétains, je ne sais pas, et essayer de trouver des façons de relier les uns avec les autres. Et donc, en fait, j'ai imaginé une pièce qui était comme une sorte de Big Bang. Donc, on a au tout début de l'œuvre, en fait, les six musiciens jouent sur une unique caisse claire qui est posée au centre de la salle. Et puis, donc, ils font éclater une espèce d'énorme son. Et là, on a comme une explosion avec des particules qui partent dans tous les sens à des vitesses différentes. Voilà. Et petit à petit, ils s'éloignent, ils changent de position au fur et à mesure. Et puis jusqu'à la fin, il y a des musiciens dans les coulisses, derrière le public, dans le public, un peu partout. Et voilà. Donc, et ils dessinent. À la fin, ils doivent, en principe, si la configuration de la salle le permet, doivent dessiner la constellation du Bouvier. Voilà.
Un extrait de La Vitesse pour six percussions de Philippe Leroux par l'ensemble Sixstrom. C'est une pièce que l'on pourra entendre le 29 juin, donc après-demain, dans le cadre du festival Manifeste. Ce sera au 104 dans le cadre de la nuit de la percussion avec les étudiants de l'Académie. Et cette pièce sera aussi sur un disque à paraître sous le label Soupir dans quelques semaines, dans quelques mois, Philippe Leroux.
À la rentrée, oui, en octobre.
À la rentrée. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce disque ?
Alors, il y a une autre pièce pour six percussions qui s'appelle De l'itération et un trio qui s'appelle Les Uns.
Et voilà. C'est votre troisième, quatrième disque sous ce même
Le quatrième disque label Soupir. Chez
Soupir. Ouais. Ouais, dont il faut saluer la persévérance.
Absolument, une longue collaboration avec Joël Perrot.
Et le dynamisme en même temps, oui, Joël Perrot qui est un musicien lui-même, un excellent ingénieur du son également. Alors, on revient à la voix, si vous le voulez bien, Philippe Leroux, qui nous occupe une bonne partie de cette émission, avec les cinq poèmes de Jean Grosjean que l'on retrouvera entremêlés, tressés, on pourrait dire, pour employer un terme qui vous est cher, dans une autre œuvre plus récente. Qui c'était Jean Grosjean ?
Jean Grosjean est un poète français qui est d'ailleurs
du 20e
décédé,
siècle,
ouais. Du 20e siècle, qui est décédé il y a, je sais pas, 5-6 ans. Extrêmement intéressant et qui a fait beaucoup de traductions aussi du théâtre et des poèmes sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé. Et c'est une vision un peu cosmique de la nature. C'est une relation à la métaphysique, c'est une relation au spirituel qui m'est assez chère. Et par exemple dans ces poèmes et dans celui qu'on va écouter notamment qui s'appelle Désert à l'essai, oui. Jean Grosjean dans ce poème évoque une ligne d'horizon qui est celle du désert bien sûr et tout de suite moi par exemple, je l'ai associé à la teneur moyenâgeuse. C'est la première chose qui a fait que j'ai associé cette œuvre avec des pièces de Guillaume de Machaut et puis un projet plus global qui s'appelle Quid Sit Musicus. Voilà, mais c'est une très très belle poésie qui me touche beaucoup. Voilà. Moi j'ai toujours eu besoin d'être d'être qu'il y ait une rencontre avec le texte. Et ça a été le cas avec Marguerite Duras par exemple, avec qui j'ai travaillé, avec Edmond Jabès. Avec Lindel Pierre, qui est moins connu, mais qui est un poète français beaucoup plus jeune. Mais voilà. Là, je viens de faire plusieurs pièces sur des textes de Fernand Ouellet, un poète québécois, qui est un plus vieux monsieur, mais qui écrit aussi très, très bien. Voilà.
Vous évoquez le mot teneur. Dans d'autres endroits, j'ai lu aussi le rapport à Thaléa rythmique. Vous parliez de modalité tout à l'heure. Est-ce que ces outils, qui effectivement ne sont pas de notre siècle, vous les réemployez dans votre propre langage ?
Ah oui, tout à fait. Puis, moi, c'est ce qui me fascine chez Machaut, c'est que, à la fois, c'est une écriture extrêmement élaborée, justement, qui utilise des isorythmies, des récurrences, des palindromes. On peut lire une pièce dans un sens ou dans l'autre.
Des espèces
de, voilà, des jeux comme ça très, qu'on pourrait qualifier de formaliste un petit peu. Et puis, en même temps, c'est une écriture d'une incroyable
Je ne me sens pas formaliste. Je n'ai pas l'impression que vous soyez vraiment
mais
formaliste.
Je le suis aussi. Hein. Je construis beaucoup mes pièces. Bon, ça dépend, certaines moins, mais je fais toujours en sorte, je dirais une pièce sur trois au moins, d'aller assez loin dans la construction, dans l'élaboration. Ce qui permet de renouveler mon langage, parce que sinon, on tourne un peu en rond finalement. On est toujours dans l'intuition, et ce qui est formidable, mais si on la met pas en, comment dire, si on la heurte pas, cette intuition, elle tourne.
Un formaliste pragmatique, on parlera d'une pièce tout à l'heure que vous avez un peu changée.
Ah oui, tout à fait. Quatuor à cordes, qui est entièrement organisé autour du chiffre 7, et dont j'ai supprimé un mouvement, ce qui fait qu'il reste que 6 mouvements. Oui. On parlera tout à l'heure peut-être.
Oui, on va y revenir. En attendant, voici Désert à l'essai. C'est un extrait des 5 poèmes de Jean Grosjean et les solistes 21 sont dirigés par Rachid Safir.
Thank you.
Désert à l'essai, le deuxième des cinq poèmes de Jean Grosjean de Philippe Leroux par les Solistes 21, dirigé par Rachid Safir, une œuvre que l'on va retrouver tout à l'heure sous une autre forme, en tout cas intégrée à une autre œuvre dont on va parler tout à l'heure. Là, c'était en 2010. Philippe Leroux, plus récemment, d'ailleurs on l'avait entendu dans cette émission, vous avez signé un quatuor à cordes créé par le Quatuor Bella, c'était cette année dans le cadre de la Biennale de la Philharmonie de Paris. Ça s'appelle Whiteface. Whiteface, c'est une montagne ?
C'est une montagne, oui, dans l'État de New York, aux États-Unis, une montagne que je connais bien.
Ah, vous la pratiquez en tant skieur,
comme ouais. Skieur, l'hiver et l'été comme promeneur. Et j'ai un collègue d'ailleurs, professeur de contrepoint, qui va à la pêche là-bas, et puis il y a des saumons, et toutes sortes de poissons extraordinaires. Voilà. Et donc j'avais envie de travailler depuis longtemps, de faire une œuvre qui soit uniquement un grand glissé du début à la fin.
D'accord, donc c'est touchous, on pourrait dire.
C'est touchous.
Sauf qu'il y a quand même des virages, ce qui permet virages, de filtrer les sons.
Il y a des dérapages.
Voilà, c'est ça. Et c'est à chaque fois quelque chose que vous allez exploiter sur le plan musical. Et puis, effectivement, oui, ça monte, ça descend, mais c'est pas seulement ça. Il y a des intersections, il y a des épaisseurs, il y a des longueurs, des largeurs. Enfin, il y a tout ce qu'on peut trouver sur une piste, finalement, et sur une montagne.
C'est ça. Oui.
C'est un dessin complexe.
Disons que, pour moi, la notion de glisser, que j'ai découverte à la fois dans la musique électronique, et puis chez Xenakis aussi, bien sûr,
Métastasis, déjà, c'est un geste fondateur.
Voilà. Elle est d'une très très grande richesse. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est à la fois cet aspect de la continuité, l'aspect de la trajectoire, la directionnalité. Qu'est-ce que c'est encore c'est le plaisir de la glisse. C'est l'articulation, comment un glissé peut servir à articuler deux éléments sonores. Donc c'est d'une très très grande richesse. Donc j'avais envie de faire une pièce qui travaille.
Alors c'est plus facile avec un quatuor à cordes qu'avec un piano, même en quart de temps.
Oui, hein, c'est clair. Et alors c'était très bien parce que je travaillais avec le quatuor Bella qui est vraiment un quatuor merveilleux. Et donc la création était très aboutie. Et c'est une œuvre qui travaille entièrement sur le chiffre 7.
Ah, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, finalement, vous avez enlevé un des sept mouvements. Oui. Mais comment c'est possible?
Mais c'est-à-dire que après la création, j'ai trouvé que la pièce était trop longue. Et comme elle avait été très bien jouée, je n'ai pas pu mettre ça sur le compte des interprètes. C'est ça le problème. Quand les œuvres sont bien jouées, parce qu'une œuvre qui est mal jouée, c'est un des très grands problèmes du compositeur, c'est que il ne sait jamais en fait. Il a du mal à dégager sa responsabilité. Ah oui. Est-ce que c'est de sa faute si telle chose est ratée ou est-ce que ça a été mal joué? Et c'est très dur. J'ai vu des œuvres très mal jouées, même 25 ans, 30 ans après, on ne sait toujours pas si c'était raté ou réussi.
C'est pour ça que
j'ai enterré
c'est
des pièces.
Jouer.
Il faut les rejouer, oui. Mais des fois, on n'a pas envie de prendre le risque. Enfin bon, donc là, j'ai trouvé que c'était trop long. J'ai supprimé un mouvement entier.
Lequel?
J'ai supprimé le quatrième mouvement.
Au centre, alors?
Oui. Parce que j'ai pensé que c'était un mouvement, en fait, qui n'était pas entièrement moi. Je m'étais un peu laissé aller. J'ai un tel plaisir à écrire cette pièce que je me suis laissé aller au fil de l'écriture et je suis sorti un peu de mon univers, mais pas au bon sens du terme. J'ai pas enrichi mon univers. Je suis allé un peu sur la plate-bande, peut-être, d'autres compositeurs, et du coup, voilà. Et alors, j'aime cette idée d'avoir construit une pièce entièrement sur le chiffre 7 et que finalement, elle fasse 6 mouvements.
Mais vous aviez glissé un peu trop loin.
Voilà. Et puis j'ai pensé à Picasso, vous savez, qui dit « quand je n'ai plus de bleu, je prends du rouge ».
Thank you.
Un extrait de Whiteface pour Quatuor à cordes de Philippe Leroux. C'était le Quatuor Bella qui a créé cette pièce le 15 janvier dernier à la Philharmonie de Paris. On l'avait d'ailleurs écouté dans cette émission, tout comme d'ailleurs Quidsit Musicus que vous aviez créé il y a 2 ans à l'IRCAM, déjà dans le cadre de ce festival, avec les solistes 21, toujours dirigés par Rachid Safir. Alors là, on peut peut-être reprendre l'image de la tresse pour décrire ce qui se passe dans cette pièce assez complexe.
Alors oui, là c'est une pièce d'une heure en fait, qui entrelace quelques œuvres médiévales, donc de Guillaume de Machaut, Jacob de Senlèche, et les 5 poèmes de Jean Grosjean, dont on a écouté un extrait tout à l'heure, et puis Quidsit Musicus, qui est une pièce pour 4 chanteurs, 2 instruments, qui sont guitare et violoncelle, mais qui jouent aussi le luth médiéval et la vielle. Et électronique. Un gros travail sur l'électronique réalisé à l'IRCAM autour de du papier interactif, c'est-à-dire un papier sur lequel...
Ah oui, interactif, maintenant on dit augmenté partout. Alors.
Ah oui, bon, c'est ça, bon, tantôt augmenté, tantôt interactif.
Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut redessiner par exemple un homme, pour prendre un exemple médiéval, et puis il va y avoir une sorte de quadrillage électronique du papier qui
absolument.
Permet de capter...
C'est ça, c'est
de...
comme un code-barre en fait, ça voilà. Fonctionne comme un code-barre, donc qui va enregistrer absolument tous les mouvements du crayon. Donc la vitesse, la place dans la feuille, la pression, l'inclinaison sur des X et des Y, etc. Alors, et donc toutes ces données sont capturées et après, moi je les utilise pour générer la spatialisation des sons, la façon dont les sons se déplacent dans l'espace, les mouvements, les trajectoires mélodiques, certains rythmes, etc. Les transformations de timbre. Excusez-moi, je m'arrête pas.
C'est tout à fait passionnant. Mais alors, Machaut, il n'écrivait pas lui-même ses manuscrits. Ce qu'on a, les manuscrits de Machaut, c'est pas lui qui les écrit. Alors, c'est un scribe de l'époque. J'imagine qu'il y a plusieurs mains. Alors, comment vous avez choisi les manuscrits?
Alors, j'ai travaillé sur le rondo Ma fin et mon commencement, donc ce rondo qui est un palindrome. Et en fait, donc, je suis allé à la Bibliothèque nationale, travailler sur le manuscrit.
Ah oui, vous avez eu le droit de le sortir.
Oui, on l'a sorti. Et
je dis ça, mais j'ai vu le film, donc je sais que vous l'avez sorti. mais c'est quand même bien. Parce
c'est un manuscrit de 1370. Ouais. Donc, qui a été écrit 7 ans avant la mort de Machaut. Et Machaut, on sait que Machaut l'a validé, ce manuscrit. Il l'a vu et il l'a validé. Alors, effectivement, c'est pas lui qui l'a écrit, mais quand même, il a donné son accord. Et puis, moi, j'avais envie de revenir un peu dans la main. Alors, si ce n'est celle de Machaut, au moins celle d'un moine de son époque.
Alors, qui a fait le moine? C'est vous? C'est Gilbert Monod?
C'est moi. Ouais, j'ai réécrit entièrement, en fait, la partition de Machaut sur le papier interactif pour en capturer. Il y a un côté un peu heuristique, c'est-à-dire donner une nouvelle interprétation, finalement, à cette
musique. Avec un stylo normal?
Avec un stylo un peu spécial qui a une caméra Bluetooth incorporée et donc qui... voilà.
Et vous pouvez jouer comme avec la plume, avec des aplats.
Oui, enfin c'est pas une plume, c'est quand même un stylo. Ça reste un peu basique à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un vrai crayon, un vrai stylo qui laisse des traces. Donc ça, c'est très différent, par exemple, du travail qu'on peut avoir avec une tablette graphique ou
avec Lupik de Xenakis.
Oui, c'est très différent. Ouais. J'avais travaillé avec Xenakis sur Lupik pendant plusieurs mois. C'était très intéressant. Probablement, d'ailleurs, ça a nourri beaucoup cette réflexion.
Oui. Bah oui, là on revient vraiment à cette idée de continuum et à cette idée de geste et de mouvement qui vous est particulièrement cher. Alors quand vous parlez de tresse, est-ce que c'est uniquement cette image de tressage entre les différents types de pièces ou est-ce que c'est aussi dans la musique?
Alors c'est aussi dans la musique, c'est aussi... j'envisage beaucoup la musique comme étant une superposition de plusieurs couches d'organisation. Par exemple, on a des configurations sonores, des éléments sonores, des sons, en fait, tout simplement, qui ont une certaine qualité. Par exemple, ça va être une première couche. On va travailler sur la qualité de ces sons-là. Après, on va les organiser comme des phrases, forme de syntagme un peu. Donc là, on travaille à un autre niveau. Et puis, on a un niveau plus structurel, niveau des sections, des retours de sections, etc. Un niveau formel, la poésie de la forme, la dramaturgie de la forme. Puis un niveau sémantique aussi, parce que tout ça véhicule du sens à différents niveaux. Et un compositeur, il joue avec toutes ces choses-là. Il doit à la fois gérer... Les rapports entre les éléments sémantiques du début de l'œuvre, de la fin, et puis les sons, et puis les phrases. Moi, je suis très, très attaché à cette notion de phrasé, et puis au fait qu'une œuvre est une superposition de couches, et c'est ça qui fait la richesse d'une œuvre. Pourquoi est-ce qu'on aime une pièce la Grande Chaconne en ré mineur de Bach, plusieurs centaines d'années après? C'est parce qu'il y a cette richesse, c'est parce qu'on peut l'écouter à plusieurs niveaux, qu'on peut renouveler notre écoute, on l'écoute 50 fois, 100 fois, et puis on l'aime toujours. Il y a un mystère, il y a un secret là.
Finalement, vous faites de la polyphonie avec tout cela, de la polyphonie de sens aussi.
Absolument, oui, ouais. C'est une polyphonie qui se joue à différents niveaux d'organisation, oui.
On va se quitter avec un extrait de Quidsit Musicus. Quidsit Musicus, c'est Boès, c'est ça?
C'est Boès qui nous ramène au 6e siècle. Qu'est-ce que le musicien? Et lui, il propose trois réponses. C'est le musicien, c'est celui qui fait, ou bien c'est celui qui connaît, ou bien c'est celui qui pratique, en gros. Et pour Boès, qui est un bon platonicien, c'est celui, en fait, qui connaît. C'est le théoricien, en fait, pour lui, le musicien. Et pour moi, c'est les trois.
Et mon commencement.
Fait. Regardez.
Ah!
Un extrait de Quidsit Musicus de Philippe Leroux par les Sadistes 21, dirigé par Rachid Safir. Ainsi se referme cette émission, c'est la dernière de la saison. Merci beaucoup Philippe.
Avec grand plaisir, merci de votre invitation.
Et je rappelle les deux concerts, le 29 juin de La Vitesse avec les étudiants de l'Académie Manifeste dirigé par Stephen Schick. Et puis le 2 juillet, Prélude à l'épée pour Ensemble, ça c'est une première. Et puis reprise de Voirex avec Donatien Michel Dansac et l'ensemble Meita, dirigé par Pierre-André. Voilà, de tout ça, c'est dans le cadre du festival Manifeste. Et je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, puisque c'est l'été. La saison prochaine, si tout va bien, le rendez-vous avec la musique d'aujourd'hui, ça devrait être le mercredi soir. Tout d'abord avec un concert de création à 20h, et puis reprise en fin de soirée à 23h avec un portrait lié à l'actualité de la musique d'aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite un excellent été à l'écoute de France Musique. Et bien sûr, mille merci à Marion Guillemet qui nous a aidé à préparer cette émission, à Patrick Lérisset pour la réalisation ce soir. Nous étions en compagnie de José Pernès, Emmanuel Dupuis et Cyril Zvetosevitch. France Musique, 22h30, communiqué.